Europe 1, 13h, 14h, les carnets du monde.
世界游记.
Carnet du monde.
Dnevniki mira.
Europana.
Europa 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette heure dominicale de vadrouille. Ensemble, on va écouter le monde changer, entendre comment on vit ailleurs. Et il y a quelque chose qui ne change pas, pour le coup, en Pologne, ce sont les restrictions de liberté en série, orchestrées par le gouvernement ultra-conservateur. Même manifester pour la Journée internationale des femmes, lundi dernier, était périlleux pour celles descendues dans la rue. On sera à Varsovie. Ce qui change, en revanche, ce sont les outils pour rechercher nos origines. Les kits de tests ADN sont une véritable révolution dans la généalogie. Des familles s'élargissent, certains retrouvent une mère, un fils. Les conséquences sont innombrables. C'est un gros dossier que l'on vous propose aujourd'hui, où l'on entendra un Allemand qui a recherché sa famille éparpillée à l'arrivée du nazisme, la fille cachée du roi des Belges, des Chiliennes qui recherchent leurs enfants volés sous la dictature, également un ponte de la génétique en Thaïlande qui nous fera toucher du doigt le pouvoir politique de cette science, et pour nous accompagner, le spécialiste de la généalogie, Jean-Louis Bocarno, décryptera avec nous cette révolution en cours. Eva Rock nous fera découvrir une super série signée Steve McQueen. Quant à Joseph Chovanec, il nous baladera dans ces villes qui en copient d'autres. Les carnets du monde sont ouverts et on prend la direction de Varsovie. Les manifs étaient nombreuses lundi dernier, le 8 mars, dans le monde et notamment en Europe. Mobilisation contre les inégalités, les discriminations et les violences faites aux femmes. En Pologne, les rassemblements étaient marqués par le recul du droit à l'avortement décidé par le parti ultra-conservateur au pouvoir, le PiS, marqué aussi par une très forte présence policière, raison officielle, le Covid. Pourtant, au-delà du contexte de pandémie, c'est bien des restrictions de liberté fondamentales que dénoncent les Polonaises descendues dans les rues. Reportage à Varsovie en ce 8 mars de Jean-Rémy Baudot.
Mon corps, mon affaire. Par petits groupes au pied de l'imposant palais de la culture de Varsovie, quelques dizaines de manifestants, principalement des femmes, tentent de faire entendre leur colère. Depuis plusieurs mois, depuis que la coalition de droite ultra-conservatrice au pouvoir a rendu l'avortement quasi interdit, les manifestations s'enchaînent et les slogans réclament plus de liberté. Katasinia nous traduit son chant.
Je pense, je sens et je décide.
D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que nous sommes des êtres humains qui ont le droit de prendre ses propres décisions, de décider de nous-mêmes, qui ont le droit d'avoir la dignité et d'avoir le choix. C'est à nous de faire le choix et pas au gouvernement autoritaire de nous imposer le choix.
Ce lundi, Journée internationale des droits des femmes, la présence policière est particulièrement importante dans la capitale. Tout est fait pour empêcher les cortèges. Impossible pour les manifestants de se regrouper. La police occupe le terrain, fractionne la foule, récolte l'identité de ceux qui brandissent des panneaux hostiles au gouvernement. Diana porte un masque avec un éclair rouge, symbole des militants pro-avortement. Elle dénonce cette pression policière.
Beaucoup de mes amis ont arrêté de venir parce qu'ils ont peur d'être maltraités par la police, d'être embarqués et de ne pas rentrer à la maison et de devoir passer toute leur nuit dans un commissariat, quelque part à 50 km de Varsovie. Parce que c'est ce qu'ils font. Ils vous attrapent et ils prétendent qu'il n'y a plus de place ici à Varsovie, donc vous finissez quelque part en dehors de la ville et là, personne ne sait ce qui vous arrive. On ne veut pas ça et on est beaucoup à avoir peur parce qu'il y a tellement de policiers ici. Ils nous filment aussi, vous voyez, là, ils ont des caméras pour avoir des preuves, pour après. Donc c'est effrayant et ils essayent de nous terroriser comme ça.
Des intimidations confirmées par Martha Lempart, c'est l'une des organisatrices du mouvement appelé la grève des femmes, elle-même poursuivie par les autorités polonaises pour une manifestation en période de Covid. Elle risque 8 ans de prison.
Les gens sont harcelés, réprimés, traînés devant les tribunaux et mis en prison. Ils sont frappés, gazés, illégalement parqués dans les manifs. Voilà la répression politique envers des milliers de personnes déjà.
Vous pensez que ça va stopper les manifs ou les gens sont plus forts que ça ?
Les gens sont plus forts. Mais malgré tout, certains ont peur. Certains ne se sentent plus le courage de descendre dans la rue parce qu'ils ont peur de la violence de la police. Et c'est pourquoi ceux qui y vont comptent pour beaucoup plus qu'eux-mêmes.
Une politique répressive qui pourrait laisser des traces sur le long terme. Une partie de la population affirme ne plus avoir confiance en la police, même défiance envers la très puissante église polonaise et le parti PiS au pouvoir. Pour beaucoup de manifestantes que j'ai pu rencontrer, la seule issue pour sortir de cette crise est désormais le départ du gouvernement. À Varsovie, Jean-Rémy Baudot, Europe 1.
Retour dans le studio d'Europe 1 et vous êtes avec nous, Jean-Rémy, bonjour.
Bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous.
Rentré en milieu de semaine de Pologne, où vous avez passé quelques jours. Vous avez été marqué, m'avez-vous dit, par cette quasi-impossibilité de manifester en 8 mars.
Oui Sophie, mais c'est à l'image de la difficulté d'exprimer une opinion défavorable au gouvernement en Pologne. La manifestation du 8 mars à Varsovie, elle a été organisée quasi clandestinement. Le lieu a été donné sur des boucles quelques heures avant, mais la police en fait avait l'information, d'où un dispositif policier extrêmement compact, des dizaines de camions, des centaines de policiers armés. Ils n'ont même pas laissé le cortège bouger, ils ont plutôt créé des zones hermétiques où les petits groupes de manifestants étaient bloqués. Ça n'était pas la méthode à la française où on fait éventuellement donc défiler les cortèges, où on crée une nasse évidemment, éventuellement à la fin. Non, là c'était vraiment comme des quartiers qui étaient créés avec les manifestants. Tout ça sous surveillance, des caméras, des drones dans le ciel, les personnes avec des pancartes systématiquement contrôlées. On l'entend un peu dans le reportage, mais en fait tout est fait depuis des semaines, depuis des mois, pour dissuader les Polonais et les Polonaises de manifester.
Alors vous étiez là-bas pour suivre la visite du secrétaire d'État français aux affaires européennes, Clément Beaune, qui s'est heurté à une autre restriction de liberté à laquelle font face certains Polonais, la grande difficulté de vivre son homosexualité au grand jour dans ce pays où une centaine de communes se sont déclarées zones libres de toute idéologie LGBT, des décrets sans aucune valeur juridique, mais qui créent un climat d'exclusion et de discrimination.
Oui, Clément Beaune, il avait annoncé son intention de visiter l'une de ces communes le jour où il a été, quasiment le jour où il a été nommé ministre de l'Europe, mais sous pression des autorités polonaises. Il a donc renoncé, il a préféré reporter, il promet qu'il ira un jour, mais il a tout de même organisé à l'ambassade de France des rencontres avec des associations LGBT. J'étais sur place et il a notamment rencontré Bartosz Stajewski, militant LGBT, qui a décrit la situation des homosexuels dans le pays.
70% des jeunes LGBT polonais ont des pensées suicidaires. 30% souffrent de dépression. Et ces chiffres continuent d'augmenter parmi les ados. Ce sont des faits. Le gouvernement polonais ne veut pas voir, ou plutôt, il se fait une mauvaise représentation de la réalité. Il dit qu'il y a plus de problèmes d'homophobie en Suède. C'est évidemment un mensonge. Nous, on ne compte même pas les agressions homophobes. Les policiers ne sont pas formés pour le faire, et ça arrange le gouvernement qui affirme que nous n'avons eu que 100 crimes homophobes. Évidemment, personne ne va porter plainte en Pologne, à moins d'être tabassé. Mais personne ne vous demandera pourquoi vous avez été tabassé.
Oui, on entend ce militant qui parle des faits et c'est évidemment une réponse à l'encontre de ceux militants ou proches du parti au pouvoir, le parti PiS, qui disent que tout ça c'est faux, que ces villes n'existent pas, que les homosexuels peuvent être librement en Pologne et qu'ils ne risquent rien, ce qui est évidemment faux.
Alors ces communes ont par ailleurs le soutien tacite du gouvernement polonais. Est-ce que Clément Beaune a subi des pressions politiques sur place pour ne pas y aller ?
La pression, elle était simple. S'il allait dans une de ces villes, eh bien Clément Beaune n'aurait eu aucune discussion officielle lors de ce voyage. Voilà ce que Varsovie lui a répondu quand il a annoncé le programme de sa visite. La décision de la France a donc été de maintenir le voyage et de renoncer à la visite à Krasnik pour faire de la pure diplomatie en réalité. Beaune, il fait passer un message sur les droits des LGBT malgré tout. On y contribue en en parlant aujourd'hui et depuis plusieurs jours, notamment sur Europe 1. Mais en même temps, eh bien Clément Beaune, il maintient le dialogue avec la Pologne. Rappelons quand même que la Pologne, bien que dirigée par un gouvernement ultra-conservateur qui soutient ces zones anti-LGBT, eh bien la Pologne, c'est un pays ami avec lequel nous travaillons sur le climat, l'économie, la défense. C'est donc une lecture très politique, très diplomatique. Il faut savoir qu'à l'Élysée, Emmanuel Macron dit souvent que la question des valeurs, c'est avant tout une question européenne, pas une question bilatérale. Donc c'est à Bruxelles d'agir autant que possible. C'est parfois très symbolique. Et on l'a vu d'ailleurs cette semaine où le Parlement a adopté une résolution, là encore extrêmement symbolique, proclamant l'Union européenne une zone de liberté pour les personnes LGBT.
Voilà, et autre volet d'ailleurs, la liberté des médias est également source de préoccupation. Dans une tribune publiée jeudi dans le quotidien belge Le Soir, le rédacteur en chef historique du grand quotidien polonais Gazeta Wyborcza dénonce un coup d'État autoritaire rampant dans son pays. Rien que ça, tout ça fait un ensemble pas très réjouissant. Merci beaucoup Jean-Rémy.
Merci Sophie.
À suivre, on change complètement de décor. C'est Eva Rock qui nous rejoint pour nous présenter une série dans le monde. Ça s'appelle Small Axe, réalisée par Steve McQueen, s'il vous plaît.
Les carnets du monde sur Europe 1, Sophie Larmoyer.
La culture, c'est une belle manière aussi de raconter le monde et c'est ce qu'on fait chaque semaine avec la littérature, la musique et
Les séries télé, miroir de nos sociétés. Bonjour Eva Rock.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
Vous nous emmenez sur la plateforme Salto aujourd'hui pour découvrir une série composée de 5 films ayant pour décor le Royaume-Uni.
Oui, exactement Sophie. 5 films pour une série et pas réellement 5 épisodes. Parce qu'il y a bien une cohérence et un sujet commun aux 5 œuvres qui sont signées du réalisateur Steve McQueen, mais ce n'est pas réellement une série comme on peut l'entendre. Et ce sujet en commun, eh bien, c'est la communauté caribéenne à Londres entre les années 60 et 80. Et je vous emmène pour commencer aux mangroves.
Ça a l'air cool, le mangrove, c'est
quoi ? C'est génial. C'est le nom d'un petit restaurant où on mange des plats épicés dans le quartier de Notting Hill. Alors, on est à la fin des années 60. Ce restaurant est tenu par Frank. C'est vraiment un lieu dans lequel se précipite la communauté noire londonienne. Mmh. Un endroit festif, convivial, il n'y a jamais aucun problème. Et puis, à quelques mètres de là, il y a un jeune policier, lui, qui vient d'être recruté. Et d'ailleurs, il joue aux cartes au commissariat avec 2 collègues, dont l'agent Poulet.
C'est jamais facile d'arriver en pays étranger. Quoi ? Comment ça ?
Il faut qu'on serre les coudes très fort ici.
Non ? Quoi ? T'as gagné ?
Mais avec quoi ? As de pique ! Tu connais la règle ?
Quelle règle ?
Personne lui a dit. C'est pas très sympa, les gars.
La règle, c'est la règle. Celui qui tire l'as de pique doit sortir arrêter le premier babouin noir qu'il aperçoit.
L'arrêter pourquoi ?
T'apprendras.
Wow. Et ils font une descente donc ?
Exactement, et le lieu est tout trouvé, c'est le mangrove. Des descentes qui vont se répéter pendant des semaines. Harcèlement moral, physique, une violence quotidienne qui exaspère Franck évidemment. Et les clients, dont certains militent au sein des Black Panthers, du racisme ordinaire, insupportable, intolérable. Et l'agent Poulet se retrouve donc face à Franck.
Tu te prends pour qui avec ton restaurant, une sorte de chef de file ?
J'ai ouvert ce restaurant pour que tout le monde puisse y manger sans aucune distinction.
Et c'est tout à ton honneur. Mais le problème, c'est ton menu. Il va falloir rajouter pas mal de choses si tu veux continuer à tenir cet établissement.
Nous ne servons que de la cuisine épicée dans ce restaurant.
Ah, le problème avec vous autres, c'est que vous n'avez pas bien compris, je crois. Vous vous ramenez avec vos vêtements colorés, vous couchez avec nos femmes, vous vous prenez pour les rois du pétrole. Mais tu sais quoi ? Vous allez déchanter. C'est chez moi, ici. On ne marche pas sur la gueule.
Pouli, non ! Pouli ! Espèce de salopard ! Tu es le diable !
Bouge pas !
Tu es le diable !
Allez, on passe à moi !
Alors ça, c'était une descente parmi tant d'autres. Et exaspérée, la communauté caribéenne va décider d'organiser une manifestation pour protester contre ces violences policières. Manifestation réprimée et 9 Noirs sont arrêtés et jugés.
Mais tout ça, Eva, est-ce que c'est fondé sur des faits réels ?
Oui, c'est histoire vraie. Le film raconte ce procès qui a réellement eu lieu et qui va changer beaucoup de choses au Royaume-Uni. Et Small Axe revient ainsi sur une histoire qui a longtemps été ignorée par les livres d'histoire. Et elle fait évidemment écho à l'actualité. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler. On a l'impression que Steve McQueen filme le monde d'aujourd'hui, alors que, notamment, le procès du policier impliqué dans la mort de George Floyd a démarré aux États-Unis. Mmh. Et d'ailleurs, le réalisateur a dédié cette série à George Floyd et à tous les autres Noirs, visibles ou invisibles, qui ont été tués pour ce qu'ils étaient aux États-Unis, au Royaume-Uni et partout ailleurs.
Les 5 épisodes retracent des histoires plutôt tragiques, donc ?
Alors, plutôt tragiques, mais il y a une force dans cette anthologie. C'est d'abord sur la forme. Steve McQueen s'essaye à plusieurs genres. C'est-à-dire que là, je vous ai parlé du premier épisode qui est un film de procès, mais il y a aussi un épisode qui est musical, un autre qui est une sorte de biopic. Et à chaque fois, c'est une œuvre magistrale. La réalisation, et c'est pour ça que c'est effectivement dramatique, mais la réalisation est tellement flamboyante, c'est tellement lumineux. C'est lumineux parce qu'il a cette capacité d'abord à mettre en avant des sourires et la façon dont il met en scène les corps, des corps qui dansent en permanence. Parce qu'encore une fois, et vous l'entendez, la musique s'impose comme le fil conducteur, le symbole d'une communauté joyeuse, pleine d'espoir. So let's start getting happy now. Ready? Et j'ai oublié de vous dire que le titre Small Axe est inspiré d'une chanson de Bob Marley dans laquelle il dit « Si vous êtes le grand arbre, nous sommes la fine hache prête à vous abattre ». Small Axe est à voir absolument sur Salto.
Voilà, une plateforme française à laquelle il faut s'abonner. Donc si on veut voir ces films, ces 5 films qu'on a bien envie de découvrir, signé Steve McQueen. Merci beaucoup Eva.
Et on vous retrouve dans Culture Média chez Philippe Vandel le matin. Et puis, dans le podcast Sériland, évidemment, quel est le thème du dernier ?
On va s'intéresser aux séries espagnoles, pourquoi elles deviennent un eldorado des plateformes de streaming. Et puis, un grand entretien avec Marie Roussin, elle est créatrice de séries. Et elle va nous raconter pourquoi les scénaristes français sont en colère.
Ok.
Merci Eva.
Merci Sophie. À suivre, un gros dossier sur un thème passionnant, la famille, très élargie, la généalogie et comment les tests ADN bouleversent la perception de nos origines.
Europe 1, les carnets du monde. Avec Sophie Larmoyer.
Quoi de neuf dans la famille ? Ce n'est pas une simple question de politesse que je vous poserai à tous. C'est le titre d'un livre paru il y a quelques semaines et co-signé par Nathalie Jovanovic-Floricourt et Jean-Louis Beaucarnot qui nous accompagne aujourd'hui dans les carnets. Bonjour Jean-Louis Beaucarnot.
Bonjour Sophie Larmoyer.
Et j'ai envie de vous dire bienvenue à la maison, bienvenue dans la famille Europe 1, puisque les auditeurs les plus fidèles se souviennent, hein, vous avez sévi sur cette antenne pendant pas mal d'années, dans les débuts, tout le début des années 2000 en fait. Vous êtes le spécialiste de généalogie, auteur de nombreux best-sellers hein, sur nos ancêtres, nos noms de famille, etc. Avec vous, on ouvre un grand dossier aujourd'hui dans les carnets, celui de nos familles, de nos origines, à la lumière d'une révolution qui est la vulgarisation ces dernières années des tests ADN. C'est la première fois que ces deux disciplines complémentaires sont croisées comme ça dans un livre grand public. Vous parlez même de mode, Jean-Louis Beaucarnot. De plus en plus, nous cherchons qui nous sommes.
Alors, de plus en plus, nous cherchons qui nous sommes, mais avec des outils qui évoluent. Et là, moi, je vois dans cette mode, comme vous dites, des tests ADN, une troisième révolution généalogique. Il y en a une dans les années 80 où toute une génération a découvert la généalogie, besoin identitaire, etc. On a les archives, on passait au coupe-coupe dans les archives. Une deuxième au début des années 2000 où...
Internet,
en tapant son nom sur un moteur de recherche, on arrivait sur un site généalogique et on se découvrait une passion. Et puis, j'en vois arriver une troisième actuellement, c'est très très net. Nouvelle génération qui vient à la généalogie différemment, simplement parce que, un peu achat impulsif, un peu phénomène de mode, justement. On a un copain qui a fait son test ADN, qui s'est gratouné la joue et qui s'est retrouvé des ancêtres, tout au moins des origines ethniques, comme ci, comme ça. Bon, on va le faire aussi.
Et ça peut déclencher des choses. Alors, on a l'habitude, ici, dans les carnets, de partir en vadrouille. Avec vous, on fera quatre étapes dans le monde aujourd'hui. Et la première nous emmène à Berlin. Elle illustre bien cette quête de la famille, ce besoin de reconstituer son arbre généalogique. Je vous propose d'écouter le témoignage de Maxime Léo. Il est journaliste allemand, né à Berlin-Est en 1970. Il vient de publier un récit, « Là où nous sommes, chez nous, l'histoire de ma famille éparpillée et sa famille, c'est celle de juifs berlinois assimilés qui fuient le nazisme au début des années 30 ». Hélène Kohl a rencontré Maxime Léo à Berlin.
Le point de départ, c'était le mariage de mon frère qui avait lieu dans une maison de campagne près de Berlin. Parce que mon frère a eu la bonne idée d'inviter les gens d'Israël, de France, d'Angleterre, des États-Unis. Et on a dansé toute la nuit et je me suis fait la réflexion moi-même qu'on était quand même une grande famille parce que j'étais toujours habitué à être en petit comité. Ma famille, c'était mes parents, mon frère et moi, on était à quatre à Berlin. Et ce jour-là, je me suis demandé, mais pourquoi ils sont tous partis et pourquoi nous, on est restés j'ai discuté avec mes cousins et mes cousines qui maintenant ont envie de revenir à Berlin parce qu'ils se sentent aussi liés à cette ville qu'ils ont perdue au cours de l'histoire. Et donc, c'est ça qui m'a donné le coup d'envoi pour ce livre.
Vous les connaissiez, ces gens qu'on rencontre dans votre livre ?
En fait, je les connaissais de nom et peut-être aussi je les ai vus une ou deux fois, mais c'était toujours des vieux que j'ai vus. Mais là, pour la première fois, j'ai vu les cousins et les cousines qui avaient mon âge et je me suis rendu compte qu'ils se sont d'ailleurs posé la même question que moi. C'est-à-dire, moi, je me suis toujours demandé pourquoi mon grand-père, qui était dans la résistance française après la guerre et qui est revenu pour libérer l'Allemagne et pour surtout construire l'État de la RDA après. Donc c'était le seul qui est revenu, tous les autres sont restés. Et j'ai toujours envié ma famille en Autriche, en France, en Angleterre, parce que je trouvais ça plus cool de vivre là-bas. Et là, je me suis rendu compte qu'eux, ils m'enviaient, moi, parce que j'ai pu rester là où ils auraient pu être nés.
On suit le destin de trois jeunes femmes qui partent de Berlin dans les années 30. Et puis on suit le destin de leurs descendants qui tous, à un moment donné, vont se confronter à leurs origines. Et souvent, ça ne se passe pas très bien. Est-ce que c'est compliqué de faire une recherche familiale ?
La famille est déjà très compliquée. Je crois que c'est les gens qu'on ne choisit pas. Hein. Et je crois qu'on se rend compte de la complexité et la, et les difficultés, plus on se penche dans ces histoires familiales, ça peut apporter, bien sûr, beaucoup de bonheur, mais ça rend un peu humble aussi, parce qu'on se rend compte qu'on a toujours cette idée qu'on est ce qu'on est par les décisions qu'on a prises au cours de la vie. Et en parlant avec ma famille, je me suis rendu compte qu'on est en fait un maillot dans la chaîne et que beaucoup de choses étaient déjà pensées avant, beaucoup de choses étaient ressenties avant. Ça ne veut pas dire qu'il y a une sorte de destin prédéfini, mais cette famille est beaucoup plus forte et beaucoup plus déterminante que je pensais.
Quand est-ce qu'on est prêt à faire cette démarche ?
Je crois qu'il faut un certain âge pour écrire ce genre de livre. Il faut avoir peut-être les enfants soi-même. Et surtout, je crois que c'est ce genre de livre qu'on ne peut pas décider. C'est ces livres qui viennent, qui s'imposent. Et moi, j'ai ressenti ça et c'était quasiment devenu existentiel parce que c'est quand même des questions que j'ai aussi un peu évitées toute ma vie. Qu'est-ce que ça veut dire d'être juif ? Qu'est-ce que ça veut dire d'être appartenir à une famille qui était à moitié assassinée par les nazis ? Est-ce que ça me blesse moi ? Est-ce que c'est quelque chose qui me fragilise encore aujourd'hui ? Donc, j'ai aussi parlé, par exemple, avec les psychologues pour savoir quelles sont les répercussions de la deuxième, troisième, quatrième génération du Holocauste. J'ai été allé voir une psychologue et j'ai dit, je fais des recherches pour un livre. Elle dit, oui, très bien. Et elle me dit, est-ce que vous ressentez quoi, vous, par rapport à cette problématique ? J'ai dit, bon, rien du tout, je me sens tout à fait normal. J'ai demandé, mais et comment on reconnaît les gens qui ont des problèmes avec ces traumatismes ? Ils disent, la plupart, ils disent qu'ils n'ont pas de problème, tout va bien. Donc j'ai compris qu'il y a du travail et qu'il y a de la matière à réfléchir.
Est-ce que toutes les questions ont trouvé des réponses ? Ou est-ce que, par exemple, vous pourriez envisager maintenant de dire, je vais faire un test ADN, peut-être que je vais découvrir d'autres choses ?
Non, parce que si toutes les questions trouvaient des réponses, ça serait un peu ennuyeux. Ce qui était très chouette avec ce livre, c'est que j'ai l'impression que cette famille est vraiment devenue plus dense et plus proche maintenant. Et on se téléphone, on s'écrit, on se rend visite. Aussi, les autres, entre eux, sont rentrés à nouveau en contact, les Anglais avec les Français, avec les Autrichiens. Il y a quelque chose qui s'est mis en marche et qui a réanimé un peu cette famille éparpillée.
Voilà, le livre de Maxime Léo, « Là où nous sommes chez nous », est publié chez Actes Sud. Ça rend humble, dit-il, de découvrir qu'on est un maillon de la chaîne familiale et de découvrir finalement que son histoire familiale s'inscrit dans la grande histoire. Ça vous change, c'est un peu ça qu'il nous dit.
Ben, il dit plein de choses oui. Très très sensées. Hein. Tout homme, toute femme, tout être humain au fil de sa vie est rattrapé par le questionnement généalogique. En général, c'est à la suite d'un changement profond, souvent d'un deuil, on a perdu le père ou le grand-père, d'un divorce, d'un déménagement, paternité, maternité, c'est très très important aussi. Je pense qu'aussi, il montre que quand on s'intéresse à l'histoire de sa famille, etc., on s'approprie les choses.
Et puis, il y a un côté cosmopolite, quand même, ça ouvre des horizons.
Oui, comme il s'approprie ses cousins vivants à l'autre bout du pays ou à l'autre bout de la planète. Ouais. Je ne suis pas psychologue, mais les psychologues ont beaucoup à dire et beaucoup à commenter.
Alors, pas de recours à l'ADN hein, pour Maxime Léo. Cette identification des gènes qui donne une autre dimension aux recherches génétiques. On en parle dans quelques instants, toujours avec vous, Jean-Louis Bocarno, qui est avec nous sur Europe 1, The Généalogiste. À tout de suite.
Europe 1, 13h, 14h, les carnets du monde. Sophie Larmoyer.
Comment le recours au test ADN révolutionne la généalogie ? C'est notre grand dossier du jour dans les carnets. Jean-Louis Bocarno nous accompagne, journaliste et généalogiste depuis des décennies. ADN, trois lettres pour acide désoxyribonucléique. Voilà, je l'aurais dit une fois, je ne le dirai pas deux fois. Il y a peu de statistiques, écrivez-vous. En voilà une tout de même en mars 2020. Plus de 32 millions de personnes au monde avaient effectué un test ADN. L'usage des tests génétiques s'est beaucoup démocratisé, mais on va tout de suite aborder un point pour le régler. En France, il reste interdit, Jean-Louis Bocarno.
Alors en France, c'est pas que ce soit à vous, mais presque, ça, c'est interdit par la loi. En dehors de tests prescrits par un juge ou un médecin, donc à finalité très particulière, on n'a pas le droit de pratiquer le petit test commercialisé, classique, qu'on pratique dans tous les pays du monde. En Europe, il n'y a que la Pologne et la France qui l'interdisent.
Pourquoi ?
On se demande vraiment. Les détracteurs parlent de tests récréatifs, ce qui me semble être une erreur et quelque chose de complètement vicié, parce que pour moi, c'est tout sauf récréatif. Alors, Ça l'est d'une certaine façon. Pour celui qui recherche ses origines ethniques, bon, on en parlera. Mais pour bien d'autres personnes, c'est tout sauf créatif.
Quand on se frotte un petit écouvillon dans la bouche pour récupérer la salive et pour l'envoyer au Texas ou ailleurs pour le faire analyser, on cherche schématiquement deux choses. Soit découvrir ses origines ethniques, comme vous disiez, et soit découvrir des correspondances génétiques pour essayer de retrouver des membres de sa famille. Ça peut paraître, vous disiez tout à l'heure, récréatif, ludique pour certains, mais pour beaucoup, c'est vraiment une recherche vitale, une recherche d'identité.
Voilà. Vous en parlez à des enfants adoptés, vous en parlez à des personnes qui ont été abandonnées autrefois à la science publique ou à leurs enfants, vous en parlez à des personnes nées de PMA, vous diront que c'est leur identité, qu'ils sont depuis des décennies dans la nuit, dans une nuit totale, et qui voudraient, c'est légitime, connaître leur identité biologique. Et là, pour cela, je dirais que c'est un besoin vital. Alors, c'est pas une récréation.
Ça peut bouleverser, et ça bouleverse certaines vies. Ces tests ADN animent aussi beaucoup les tribunaux. D'innombrables affaires prennent un tour nouveau grâce au recours à la génétique. On va en entendre deux illustrations avec vous. La première nous mène en Belgique, où on retrouve notre correspondante. Bonjour Isabelle Horry.
Bonjour Sophie.
Fameuse histoire qui a défrayé la chronique royale ces dernières années et jusqu'à ces derniers mois, celle de la fille du roi Albert II, née hors mariage. La désormais princesse Delphine de Belgique a dû attendre ses 51 ans avant qu'un test ADN ne lui permette d'être reconnue comme membre de la famille royale.
Oui, il a fallu 51 ans et surtout 7 ans d'une procédure judiciaire qui s'est terminée seulement cet automne. Delphine Boël, comme elle était connue jusqu'à récemment, c'est une artiste. Albert et sa mère, une aristocrate belge, ont eu une longue histoire avant que le roi ne se réconcilie dans les années 80 avec son épouse légitime, la reine Paola. Quand un livre a révélé l'existence de la jeune femme il y a plus de 20 ans, le roi a rompu toute relation avec elle, alors que tout le monde savait que c'était sa fille. Elle lui ressemble beaucoup d'ailleurs. Mais non, il a fait un déni complet.
Et donc Delphine Boël s'est tournée vers les tribunaux.
Oui, en 2013, et ça a été un vrai chemin de croix dont les Belges ont suivi tous les épisodes. La justice a fini par contraindre le vieux roi à faire un test ADN, un quasi-crime de lèse-majesté pour certains. Cet automne, les juges ont donc finalement autorisé sa fille à porter un titre et son nom entier, Delphine de Saxe-Cobourg-Gotha. Victoire sur toute la ligne pour la quinquagénaire qui s'était exprimée devant la presse à cette occasion.
La différence, c'est comment je me ressens à l'intérieur. Quand la justice m'a donné raison, ça m'a vraiment soulagée. Donc, je vais être la même, mais à l'intérieur de moi, je me sentirai beaucoup mieux, beaucoup plus heureuse, libre, et pour mes enfants aussi. Le système judiciaire, c'est comme si eux me feraient naître comme j'aurais dû naître.
Isabelle, est-ce que ce test ADN et cette défaite judiciaire ont changé quelque chose dans la relation entre le père et la fille ?
Eh bien oui, alors c'est assez fascinant. Cet automne, quand le combat s'est terminé, il y a eu la grande réconciliation. Le premier, le roi Philippe a reçu sa demi-sœur, ce qui a dû faciliter les choses. Et ensuite, Delphine a été reçue une heure et demie par Albert et sa femme Paola. Une photo où tout le monde sourit a été publiée. Elle a fait la une de tous les journaux. Et cette fois, le communiqué parlait du temps, de la guérison et de la réconciliation. Ouais. Quasiment un happy end de conte de fées dans la vraie vie, en fait.
Merci Isabelle pour ce rappel d'une histoire pas banale.
À bientôt Sophie.
Jean-Louis Bocarnot, cette décision de la justice belge aura sûrement beaucoup de conséquences pour la princesse Delphine de Saxe-Cobourg-Gotha et ses enfants. Mais ce qu'on entend là, c'est son ressenti. Elle parle d'une nouvelle naissance.
C'est ce qu'on évoquait à propos des enfants adoptés, etc. C'est une question d'identité profonde, d'identité complète.
Alors, seconde cas de figure où le recours à l'ADN bouleverse complètement des vies. On va au Chili, vous parliez de bébés adoptés, il y a aussi les bébés volés. Oui. Entre les années 70 et 90, pendant la dictature, 25 000 enfants ont été mis en adoption de manière totalement illégale là-bas. Les parents adoptifs venaient des États-Unis ou d'Europe, au total 18 pays sont concernés. Et c'est un média d'investigation chilien qui a dévoilé l'ampleur du phénomène. En 2014, des assistantes sociales, des médecins, des juges, des prêtres ont participé à ce vaste système d'adoption illégale. Et aujourd'hui, au Chili, des milliers de mères recherchent toujours l'enfant qu'on leur a enlevé. 600 dénonciations ont d'ores et déjà été faites auprès de la justice. Et grâce notamment au test ADN, des familles ont pu être réunies. Je vous propose d'écouter le reportage de Naila Derouané à Santiago du Chili.
Dans un quartier modeste de la commune de Pudahuel, à l'ouest de Santiago, Sonia Molina habite seule dans sa petite maison.
Hola, hola.
Assise sur son canapé dans le salon, cette femme de 63 ans a beaucoup de mal à retenir ses larmes en pensant à l'enfant qu'on lui a volé alors qu'elle était toute jeune.
Chaque jour, j'ai pleuré pour ma fille. Je la voyais dans mes rêves, elle venait vers moi. Toute ma vie, j'ai pleuré pour elle.
Sonia avait 14 ans seulement quand elle a eu sa première fille, en 1971. Elle a accouché à Santiago, puis elle s'est installée dans le sud du pays.
J'ai dû mettre ma fille en pension pour pouvoir travailler. Et puis ensuite, mon grand-père m'a mariée de force avec un homme que je ne connaissais pas. Un jour, mon mari est allé dire au pensionnat que je n'étais pas la mère de ma fille. C'était un homme méchant. L'assistante sociale m'a alors demandé le certificat de naissance de mon enfant, mais ce document était à Santiago, dans l'hôpital où j'avais accouché. Je n'avais pas d'argent pour aller le récupérer. Et puis je ne savais pas lire. Je n'ai pas fait d'études, je ne savais pas quoi faire.
Sonia a continué de voir sa fille en cachette jusqu'au jour où la petite a définitivement disparu, adoptée par un couple de Suédois sans l'accord de sa mère. Ce scénario faisait partie des nombreuses techniques mises en place pour soustraire les enfants à leur mère. C'est ce qu'explique Marisol Rodriguez, fondatrice de l'association Enfants et Mères du Silence, qui se bat pour reconstituer les familles.
Ils faisaient croire aux mamans que le bébé était mort-né. Ils ne leur montraient pas le corps, ne leur délivraient pas de certificat de naissance. À certaines mamans, on leur disait même que leur enfant avait des problèmes de santé et qu'au Chili, il ne pourrait pas survivre et que leur seule option, c'était l'adoption.
Cette entreprise rapportait gros. Un enfant valait 30 millions de pesos, soit 34 000 euros aujourd'hui. Une somme colossale comparée au prix des adoptions légales qui se faisaient à l'époque.
Les responsables de ces vols disaient que c'était pour aider les enfants à avoir une meilleure vie, pour qu'ils puissent étudier, mais en fait, leur principale motivation, c'était l'argent.
Le régime dictatorial d'Augusto Pinochet voulait aussi éliminer la pauvreté. Il fallait donc disloquer les familles les plus démunies, quitte à briser des vies comme celle de Sonia.
Je veux que justice soit faite pour toutes les mères à qui on a volé les enfants. Car personne ne nous a écoutés. On ne nous a jamais pris au sérieux.
Depuis 2014, quand les premières histoires sont sorties dans les médias, les choses ont bougé. Grâce au travail d'Enfants et Mères du Silence, plus de 200 familles ont été réunies. Sonia, elle, a retrouvé sa fille en 2019 grâce à des tests ADN que les deux femmes avaient faits chacune de leur côté. Emma a aujourd'hui 49 ans et vit en Suède, d'où elle a envoyé une petite vidéo à sa mère.
C'est incroyable de t'avoir retrouvée. Je vais réunir de l'argent pour venir te voir. Je vis désormais avec l'espoir de te rencontrer.
Je suis heureuse même si elle est loin. Au moins, je sais qu'elle est là-bas. La seule chose que je veux maintenant, c'est prendre ma fille dans mes bras.
Le gouvernement chilien a récemment ouvert une banque de données pour recenser et croiser les empreintes génétiques des personnes concernées par ces vols d'enfants. Actuellement, le projet est en suspens à cause de la pandémie, mais il représente un immense espoir pour des milliers de familles qui cherchent encore leur enfant disparu. À Santiago, Naïla de Rouanet, Europe 1.
Voilà, et certains de ces enfants volés de la dictature chilienne ont été adoptés en France. Hein, et ceux qui voudraient faire un test génétique aujourd'hui pour retrouver leur mère biologique ne peuvent pas le faire légalement. Allusion à ce qu'on disait tout à l'heure, Jean-Louis Bocarnot, il y a beaucoup de cas de figure comme ça dans le monde où des banques de données sont créées pour essayer de réparer l'histoire.
Non, il n'y en a pas beaucoup.
Il n'y en a pas beaucoup.
Mais bon, d'abord, ça va évoluer parce que tout ça change et évolue de façon exponentielle. Hein. Mais après, les chances varient. Tout dépend qui l'on recherche et tout dépend qui va chercher. Oui. Le Français qui veut se retrouver une famille américaine va avoir toutes les chances de la retrouver, d'avoir des éléments, tout au moins pour pouvoir travailler et arriver à ses fins. Alors que l'Américain qui veut retrouver un parent en France, lui aura beaucoup moins de chances parce qu'il y a beaucoup moins de Français qui se font tester.
Vous parlez notamment dans le livre, on ne va pas pouvoir s'y étendre là, mais des enfants de la guerre, hein, des enfants de GIs, des enfants de...
Le fils de GI dont le père est venu en France a toutes les chances de pouvoir arriver à s'en sortir, alors que le fils d'Allemand, dont la mère a été violée par un soldat allemand ou autre, aura beaucoup, beaucoup de mal à pouvoir aboutir en Allemagne.
Vous racontez beaucoup de ces innombrables histoires de retrouvailles d'un bout à l'autre de la planète, retrouvailles ou de familles détricotées d'ailleurs par des révélations de filiation inconnues. Ne bougez pas, on va poursuivre cette exploration passionnante au cœur des familles après une courte pause.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Comment les tests ADN qui se démocratisent de plus en plus révolutionnent-ils la famille et finalement, d'une certaine manière, l'histoire commune de l'humanité ? Jean-Louis Bocarnot est avec nous pour décrypter les enjeux immenses
de la généalogie et de la généalogie génétique. Parmi les très nombreuses histoires que vous racontez, Jean-Louis, certaines mettent le doigt sur le vague sentiment d'une origine, confirmée ensuite par des tests ADN. C'est ce que vous appelez la psychogénéalogie.
C'est vrai que, comme vous le disiez, il y a des familles qui ont été détricotées par le résultat d'un test ADN. On s'est aperçu que l'arrière-grand-père n'était pas l'arrière-grand-père. Mais la plupart du temps, on le sait. On le savait ou on s'en doutait. Et peut-être que parfois, quand on fait le test ADN, c'est parce qu'on s'en doute.
Et puis
aujourd'hui, tout ça s'assume très bien. La psychogénéalogie, moi j'aime beaucoup, parce que alors, je ne suis pas psychogénéalogiste, mais j'aime beaucoup parce que je dirais que c'est de la psychanalyse très light, qui aide la personne à se construire ou à se reconstruire, en comprenant ce qui a fait d'elle ce qu'elle est. Et ça, c'est très important parce que ça donne des armes pour combattre, ça donne des armes pour aller de l'avant, et ça relativise beaucoup de choses. On est tous le résultat de quelque chose, d'un contexte familial, avec des pesanteurs, avec des ancêtres plus influents que les autres, etc. Donc, il est toujours bon d'essayer d'en prendre conscience. Et parfois, lorsqu'il y a des traumatismes, etc., c'est en prenant conscience qu'on aura la clé pour pouvoir lutter.
La dernière étape à laquelle je vous convie aujourd'hui est asiatique, pour percevoir que la génétique revêt aussi un enjeu politique, voire géopolitique. En Thaïlande, le professeur Vorazak Chotlesak dirige le programme national de séquençage du génome de 50 000 Thaïlandais. C'est une tâche titanesque pour sa toute petite équipe. Carole Izou l'a rencontré dans son laboratoire à l'université de Bangkok. Il explique combien c'est important pour chaque pays de développer sa base de données génétiques propre, car la majorité des données sur lesquelles travaillent actuellement les scientifiques, notamment pour le développement de nouveaux médicaments, proviennent de populations occidentales. Et parfois, ça peut être dangereux. C'est ce qu'il a expliqué à Carole Izou. Écoutez.
Chacun de nous répond à son environnement, y compris aux produits chimiques et aux médicaments, de façon différente. Et une grande partie de cette réponse est dictée par des facteurs génétiques. Dans un futur plus ou moins proche, nous aurons notre génome consigné dans notre dossier médical, afin que lorsqu'on aura besoin d'un traitement, le médecin puisse voir quel médicament et à quelle dose est approprié pour cet individu en particulier, en fonction de son génome. C'est ce qu'on appelle la pharmacogénétique. Le problème, c'est que dans les pays en voie de développement, c'est plus simple et moins cher de reprendre exactement les études qui ont été effectuées sur d'autres types de populations.
Il y a des exemples de médicaments efficaces sur des populations européennes qui se sont révélés dangereux pour d'autres populations.
Ah oui, plein. Il y avait par exemple un antiépileptique, le carbamazépine. En fait, en Asie du Sud-Est, y compris les populations du sud de la Chine, nous avons souvent une forme particulière de ce qu'on appelle le HLA. C'est une forme de gène. Tout le monde a ce gène, mais il en existe plein de formes, de variations différentes chez les humains. Vous et moi, par exemple, on a une forme différente de ce gène. Elles sont toutes normales, fonctionnelles, on ne peut pas faire de hiérarchie. 8 à 10% de la population du sud-est asiatique possède une forme particulière de ce gène HLA, alors que cette forme est très rare chez les Japonais, par exemple, et encore plus rare, infime même, chez les Caucasiens. Or, si vous possédez cette variation du gène, vous avez plus d'un millier de fois plus de chances d'être allergique à ce médicament.
C'est vraiment un enjeu géopolitique finalement, car le pays qui mène la course au génome, celui qui a le plus de données sur sa population, définit la norme de l'être humain. Est-ce que c'est une forme de domination ?
Comme dans toutes les nouvelles technologies, celui qui remporte la course définit les règles. Donc ça dépend beaucoup du leader, de sa vision, de ses raisons de vouloir être le leader. Est-ce qu'il veut la paix ou la guerre ? Car oui, la génétique peut être une arme extrêmement puissante. Aux États-Unis, ils sont en train de séquencer 1 million d'individus. En Angleterre, ils viennent de lancer un projet pour en séquencer 5 millions. Mais en Chine, c'est beaucoup plus que ça. On parle de plus de 100 millions d'individus.
La génétique a des applications en sciences sociales, en histoire, pour voir les mouvements de population. Mais maintenant, on parle aussi de génopolitique, l'idée que la génétique définit notre comportement politique.
Ah oui, ça aussi, c'est une différence culturelle intéressante. Les Occidentaux sont obsédés par le passé. Les Américains adorent savoir d'où ils viennent. Mais ces tests, vous ne pouvez pas les vendre aux Chinois. Ils s'en fichent. Eux, ce qui les intéresse, c'est le futur. Est-ce que mon enfant sera un artiste, un grand pianiste, un athlète, un scientifique ? Vendez le passé aux Américains et le futur aux Chinois.
Voilà, passionnante réflexion sur les enjeux de santé publique et les enjeux politiques de la recherche génétique. Et puis alors, Jean-Louis Bocarno, il y a cette différence culturelle évoquée en fin d'interview.
Très intéressant.
Les Chinois s'en fichent du passé, ils sont tournés vers le futur.
Vendez le passé aux Américains et le futur aux Chinois.
Ils ne cherchent pas la même chose dans la recherche génétique que
nous. Ça ne m'a jamais sauté aux yeux, mais c'est vrai que...
Chouette, on vous apprend quelque chose.
Ah, on m'a appris quelque chose. Mais bon, qui ne change rien la problématique.
Autre enjeu politique des recherches généalogiques, ce qu'elles nous disent des grandes migrations. Vous l'évoquez dans votre livre. À l'heure où les migrations aujourd'hui font peur à certains, où l'idée de race fait couler beaucoup d'encre, c'est vraiment intéressant.
C'est très intéressant de regarder
dans le rétroviseur.
C'est définitif. Ouais. C'est sans appel. Mm-hmm. Mais c'est vrai que bon, tout ça m'échappe un petit peu parce que moi je vois ça plutôt dans le sens généalogique stricto sensu. Mais ça donne quand même du recul à des tas de niveaux. Et c'est quand même très intéressant, notamment justement à ces plans-là. Mm-hmm. On se replace sur le grand arbre généalogique de l'humanité.
Exactement. C'est l'impression qu'on a en lisant votre livre.
On se sent très petit. Mais on n'en est pas pour au moins très important.
Quoi de neuf dans la famille ? Je rappelle que vous avez co-écrit cet ouvrage avec Nathalie Jovanovic-Fleuricourt, qu'elle est spécialiste, elle, de généalogie génétique. Vous êtes généalogiste. Vous avez croisé vos compétences et ça fait un livre passionnant. C'est Bûcher Chastel qui vous publie. Merci beaucoup, Jean-Louis Bocardon.
Merci, Sophie Lavoyer.
Et dans un instant, c'est Joseph Chovanec qui nous rejoint. Toute autre histoire, on va en Autistan.
Europe 1, les carnets du monde. Avec Sophie Larmoyer.
Dernière destination de ces carnets, comme chaque dimanche, on file en Autistan grâce au regard singulier de Joseph Chovanec qui m'a rejoint dans le studio. Bonjour Joseph.
Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde.
Toujours avec votre triple casquette de philosophe, autiste Asperger et découvreur en chef lors de vos voyages. Et alors parfois quand on découvre un lieu, on se dit « mais je connais cet endroit ». C'est ce sentiment de déjà-vu qui vous inspire aujourd'hui.
Oui, et ça m'est arrivé plein de fois. Alors peut-être parce que le monument face auquel j'étais, eh bien, c'était la copie d'un monument que je connaissais déjà. Ou peut-être même pire encore que la ville ou le village, eh bien, c'était lui-même une copie d'un autre lieu.
Parfois, ce sont carrément des copies volontaires, hein, comme en Chine.
Oui, on pense à ces exemples un peu caricaturaux, par exemple en Chine, où on copie des villages européens entiers, presque au brin d'herbe près, hein, avec la tour Eiffel. D'ailleurs, on ne compte plus les tours Eiffel à travers le monde. Et c'est souvent une décision politique. Quand on a visité l'outre-mer français, on ne peut qu'être frappé par la ressemblance des places centrales du chef-lieu. Place de la Savane à Fort-de-France, place des Palmistes à Cayenne, place des Cocotiers à Nouméa, et j'en passe. On dirait que seul le nom de la place change. Mes réflexions, au fait, je ne crois pas que copier ce soit ridicule. Souvent, la copie entre tellement bien dans le cadre ou les mœurs qu'on ne sort rend même plus compte.
C'est aussi vrai de certains monuments.
Oui, je pense aux cathédrales. À la fin du Moyen-Âge, les maîtres circulaient à travers l'Europe et reprenaient explicitement tel ou tel modèle de cathédrale. À Prague, la célébrité locale, c'est Pierre Parler, l'architecte de la fameuse cathédrale de Prague, qui s'était inspiré des édifices français jusqu'à se donner un nom français, alors qu'il était allemand. Ce qui m'a toujours frappé dans mes visites à Prague, c'est l'espèce de fierté d'avoir une cathédrale française au cœur de la ville. Avec d'ailleurs toutes sortes de calembours gravé dans les monuments de la vieille ville de Prague, mettons des statues avec une pierre dans la bouche. Alors Pierre, comme le prénom de l'architecte, est dans la bouche car son nom de famille s'est-elle vers parler justement.
Pierre dans la bouche, il faut oser. Vous avez d'autres exemples de ces clins d'œil architecturaux ?
Oui, en Russie, je dirais l'image cliché de la Russie, ce sont ces bulbes multicolores fabuleux de la cathédrale Saint-Basile le Bienheureux. Oui, certes, mais ces bulbes multicolores sont une œuvre italienne. Toujours dans le registre religieux, il y a une particularité à laquelle j'ai mis bien du temps à m'habituer dans les villes-villages des Pays-Bas, notamment dans le sud du pays, la grotte de Lourdes.
Comment ça, la grotte de Lourdes ?
Ben, il y en a partout, reconstitués au sein des villes, et qui s'appellent d'ailleurs explicitement Grotte de Lourdes, Lourdes Grotte. Un étranger qui ignorerait l'histoire de Lourdes pourrait croire que l'original est aux Pays-Bas. D'ailleurs, certaines sont plus impressionnantes ou presque que l'original et semblent plus vraies que nature. Mais on peut aller beaucoup plus loin encore. Je suis né à Paris, et pendant des années, je trouvais très bizarre le nom d'une localité proche de Paris, Enghien-les-Bains. Je ne parvenais pas à prononcer le nom. Je sentais qu'il y a quelque chose de louche dans l'étymologie. Ce nom n'est pas du coin, quoi. Et d'ailleurs, la station thermale en question, Enghien-les-Bains, la seule de la région parisienne, est une sorte de bulle qui contraste avec ses alentours. Et j'ai fini par comprendre la raison de ces bizarreries en prenant le train dans la région bruxelloise. Enghien-les-Bains, près de Paris, eh bien, c'est la copie d'une ville d'eau proche de Bruxelles, Enghien aussi, Edingen en flamand. Et pour le coup, c'est un toponyme absolument typique. Apprendre la forme flamande, Edingen, ça a été pour moi la psychothérapie d'un traumatisme linguistique de deux ou trois décennies.
Et en quoi est-ce une copie ?
On a tout repris. Tout. Lac, parc, architecture, ambiance générale, jusqu'au nom, quoi. Et comme les Français au 19e ne savaient pas, contrairement aux Bruxellois, que Enghien était une ville thermale, on a ajouté les bains, quoi. Hein. Mais ne soyons pas comme dans le proverbe flamand que vous direz sans doute les vieilles personnes qui connaissent encore cette langue. Il pense que c'est lui qui a pitché mousse. Il pense que c'est lui qui a pissé la Meuse, le fleuve. En d'autres termes, c'est un vantard qui croit être au centre du monde.
J'adore votre dicton du jour. Autre manière de pointer celui qui a inventé le fil à couper le beurre, c'est ça ?
Oui, moi, Pauli.
Merci beaucoup, Joseph. À dimanche prochain.
À tout bientôt.
Et sur ces bons mots, nous prenons congé. Merci de nous avoir accompagnés. N'hésitez pas à consommer et partager sans modération le podcast des carnets. La suite du programme s'écrit avec Nicolas Carreau. Bonjour, Nicolas.
Bonjour, Sophie.
Qu'est-ce que vous nous avez concocté ?
Je reçois Delphine de Vigan pour son nouveau roman, superbe. Chouette. Et la bibliothèque, c'est chez Patrick Cohen. Vous
Excellent.
Allez voir, ça va être rigolo.
Curieuse d'entendre tout ça. Merci, bonne émission. Et quant à nous, avec Julien Blanc qui a réalisé ses carnets et Marion Gauthier qui m'a aidé à les préparer, on vous donne rendez-vous dimanche prochain dès 13h pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien.